I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Des JO de Tokyo sans public ou presque, mais avec des mascottes comme Mirai Towa, mélange des mots futur et éternité. La personnalité de Mirai Towa s'inspire du proverbe japonais « apprend du passé et développe de nouvelles idées ». Avec l'idée de créer un avenir plein d'espoir, les Jeux sont ouverts. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Chaque jour, la rédaction est dans les starting blocks pour décrypter et analyser un sujet d'actualité. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux Jeux Olympiques de Tokyo qui se dérouleront du 23 juillet au 8 août dans un contexte pour le moins inédit. L'hymne olympique vu par Mister O. Drôle de fête pour des jeux qui ont failli ne jamais avoir lieu. Comme l'Euro de football, ils ont déjà été repoussés d'un an dans l'espoir de jours meilleurs sur le front du coronavirus. Mais la petite bête s'incruste aussi en Asie et le Japon a dû se résoudre à prendre une décision incroyable. La quasi-totalité des épreuves se dérouleront à huis clos, sans public ou presque. Difficile d'imaginer le silence qui accueillera le vainqueur du 100 mètres ou le nouveau champion olympique de handball. Loin de l'ambiance lors de la victoire d'Usain Bolt en 2016 à Rio.
C'est parti.
Gageons tout de même que les 11 000 sportifs présents sauront se sublimer pour l'une des plus belles compétitions de la planète. Ils sont pour la plupart déjà sur place, des dizaines de milliers de participants, compétiteurs, officiels, journalistes à attendre quasiment confinés dans un pays qui voit remonter les chiffres de la contamination au Covid. J'en avais parlé il y a quelques jours avec le correspondant des Échos, Yann Rousseau, avec qui j'évoquais le sort d'une population très particulière au Japon, les Yakuza. J'ai donc repris mon téléphone pour rappeler Yann, pour lui demander quel était l'état d'esprit des Japonais à quelques heures de la cérémonie d'ouverture. Moins de 1000 personnes, principalement des dignitaires et des officiels, devraient être autorisées à assister à cette cérémonie d'ouverture des JO le 23 juillet, selon les médias nippons. Bonjour Yann.
Bonjour.
Les autorités japonaises ont pris la décision à la dernière minute où presque le public ne pourra pas assister aux compétitions à Tokyo et dans les villes qui accueillent les épreuves. Pourquoi cette décision ?
C'est une décision assez politique en fait, c'est-à-dire que les organisateurs jusqu'à il y a quelques jours, ils étaient partisans d'accueillir un public domestique limité. On sait depuis longtemps que le public international ne pourra pas venir puisque les frontières ici au Japon sont fermées. Mais il y avait une intention d'avoir du public local à Tokyo et dans les préfectures qui accueillent des épreuves. Mais en fait, il y a eu une décision par le gouvernement central de rétablir ce qu'on appelle ici un état d'urgence pour la ville de Tokyo, la mégapole, et sa grande banlieue, si vous voulez, les préfectures qui sont autour. Pourquoi ? Parce qu'il y a un léger rebond de l'épidémie de Covid-19 lié au variant Delta, hein, comme partout dans le monde. Et donc, du coup, cet état d'urgence, il n'est pas très contraignant. C'est surtout appeler les établissements de nuit à fermer à 20h, plus de vente d'alcool, et demander aux gens d'essayer d'éviter les grands regroupements ou les activités festives le soir. Et dans ce cadre-là, les autorités de Tokyo se sont dit « Mais comment on va faire pour accueillir du public dans des épreuves toute la journée qui finissent parfois jusqu'à 23 heures, par exemple l'athlétisme ou des choses comme ça, alors qu'on demande au reste des gens de faire des sacrifices ?» Et donc, piégés un petit peu par le gouvernement central, ils ont été obligés de décider d'interdire toute venue du public à l'intérieur des arènes olympiques.
Mais ce qui est surprenant, Zigane, c'est qu'il y a quand même des compétitions qui continuent de se tenir sur le sol japonais avec du public.
Exactement. Depuis le mois de juillet l'année dernière, les championnats de baseball ont repris avec du public, les championnats de football ont repris avec du public, il y a des concerts avec du public, parfois même dans des grandes salles fermées. Alors, il y a des jauges. On est à un maximum de 10 000 personnes ou 50% de la jauge habituelle pour les arènes les plus petites. Mais vous avez des épreuves de finale à 15 000 spectateurs à Yokohama, à Tokyo, à Osaka, sans jamais aucun problème. Il n'y a pas eu de cluster dans ces grands sites ouverts qui ont été repérés depuis l'an dernier. Donc, il n'y avait pas vraiment de raison. C'est pour ça que je pense que c'est plutôt une décision politique qu'une décision sanitaire ou rationnelle d'écoute scientifique.
Il y a eu quelques cas de contamination chez des sportifs, dans l'équipe de foot sud-africaine, par exemple, hein, des sportifs qui vont participer à ces JO. Il y a quelques cas contacts. Est-ce que ça inquiète les autorités?
Il y a en ce moment, dans ce qu'on appelle les participants, c'est-à-dire au total, vous allez avoir 75 000 étrangers qui vont venir au Japon cet été pour les épreuves olympiques et ensuite pour les Jeux paralympiques. Dans ces étrangers, beaucoup sont déjà arrivés à partir de la mi-juillet, le personnel technique, les athlètes qui ont dû faire un peu des quarantaines ou s'entraîner localement. Et pour l'instant, donc aujourd'hui où je vous parle, à quelques heures de l'ouverture, on a 87 cas positifs dans ces participants. Ça peut être des athlètes, ça peut être des membres du personnel technique, ça peut être des membres de délégation, du personnel encadrant ou des Japonais dans le personnel encadrant ou les volontaires. Donc, c'est très peu, 87 cas. Ce sont beaucoup des gens qui sont déjà vaccinés, beaucoup des jeunes. Et donc, il n'y a pas d'augmentation des hospitalisations, il n'y a pas d'augmentation des cas graves dans cette population olympique. Alors, ça inquiète le gouvernement, bien sûr, parce que les médias scrutent ça. On a promis à la population des jeux dits sûrs, où il n'y aurait pas d'explosion des cas de Covid. Et donc, bien sûr, on guette le moindre petit cas positif ou la moindre petite quarantaine. Mais pour l'instant, la bulle sanitaire qui a été mise en place pour essayer d'isoler au maximum les participants aux jeux et le reste du public fonctionne plutôt pas mal, même s'il y a quelques failles, mais rien de grave.
Yann, le Japon paye aujourd'hui son retard pris dans la vaccination?
On aurait pu dire ça il y a encore quelques jours, mais il y a eu vraiment une grosse accélération des vaccinations. Vous savez, la plupart des pays d'Asie ont démarré seulement vers mars ou avril de cette année 2021, donc avec 2-3 mois de retard par rapport aux grands pays occidentaux. D'abord, ils se sentaient beaucoup moins concernés que les pays occidentaux par l'épidémie, parce qu'il n'y a pas eu ici d'envolée, de flambée des cas comme on a connu en Europe de l'Ouest, en France, en Espagne ou comme on a connu aux États-Unis. Donc, il y a eu une espèce d'approche moins urgente. Il n'y avait pas le même sentiment d'inquiétude. Et ils voulaient aussi voir comment allaient évoluer les vaccinations en Europe pour avoir un petit peu de recul par rapport à ce qui se faisait dans les vaccinations de masse en Occident. Mais dès qu'ils ont démarré au Japon, c'est arrivé très vite. On est maintenant à plus d'1,2 million de vaccinations par jour. C'est le pays au monde qui fait en volume, pas en ratio, mais en volume le plus de piqûres de vaccins aujourd'hui. Donc, ils ont refait leur retard. Aujourd'hui, on est exactement à 25% de population totalement vaccinée et la presque quasi-totalité des personnes âgées de plus de 65 ans seront vaccinées d'ici 10 jours, d'ici la 20 juillet. Vous savez que ce sont à 90% des gens de plus de 70 ans qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades et qui risquent de décéder du Covid-19. C'est partout pareil, c'est comme ça ici au Japon. Et donc, c'était la priorité du gouvernement et il va tenir plus ou moins son pari. Il aura vacciné ses populations plus fragiles d'ici la fin juillet, donc au début des Jeux Olympiques.
Vous avez parlé de l'opposition des Japonais. Il y a eu encore des manifestations captées ici par l'AFP. C'était en mai dernier. Il y a quelques jours encore, des participants demandaient carrément l'annulation des JO. C'était impensable?
C'était impensable. Et puis, il faut prendre conscience du fait que, vous savez, les médias qui sont ici, ils vont bien sûr aller filmer ces manifestations. Écoutez, la plus grande la semaine dernière, c'était 200 personnes. Donc, dans une ville gigantesque, une mégapole de 17 millions de personnes, avec 35 millions d'habitants, si je prends la grande banlieue. Bon, 200 personnes, c'est pas grand-chose. Ce sont des gens qui sont un peu anti-tout et qui trouvent dans les jeux un moyen de se focaliser contre le gouvernement, contre les autorités sanitaires, contre les mesures anti-Covid. Donc, il n'y a pas de grande colère, si vous voulez, dans la population japonaise. Globalement, il n'y a pas un soutien, il n'y a aucun enthousiasme pour les jeux, mais on est plutôt dans un sentiment de grande indifférence. Donc, c'est plutôt ça. Donc, le gouvernement, je crois, l'a ressenti et l'annulation était très compliquée. D'abord, ce ne sont pas les villes hôtes qui décident d'annuler ou de maintenir les jeux. L'événement événement aux Jeux Olympiques, il appartient au Comité international olympique. C'est lui qui a le dernier mot. Et le CEO ne pouvait pas annuler. Ça aurait été une catastrophe économique pour lui en termes de paiement, remboursement, notamment des broadcasters, des gens qui retransmettent les Jeux, essentiellement les Américains de NBC. Et aussi pour ce qu'ils appellent les global sponsors. Ce sont les 14 grandes entreprises qui ont des contrats de 4 à 8 ans avec le CEO. Et c'est l'essentiel des revenus du Comité international olympique. Donc si vous annulez des Jeux, ce sont en termes d'assurance, c'est un chaos total et ce serait très compliqué pour le Comité international olympique. Et le Japon n'a pas ressenti une urgence. Il n'y a pas de... Même si des épidémiologistes, des médias un petit peu anti-jeux ont expliqué que ça allait être l'apocalypse sur le plan sanitaire, le gouvernement a été assez posé. Il a estimé qu'il pouvait gérer ça. Et donc, il n'y avait pas besoin d'aller demander au CEO de peut-être éventuellement annuler ces Jeux.
Les Jeux paralympiques se tiendront, eux, du 24 août au 5 septembre. La question de l'ouverture au public est encore sur la table?
Il n'y a pas de décision officielle pour les Jeux paralympiques. Les organisateurs disent toujours qu'ils aimeraient qu'il y ait une partie du public. On verra où en sera à ce moment-là l'épidémie. Officiellement, on sera toujours en période d'état d'urgence, hein, dans ce que je vous décrivais plus tôt, c'est-à-dire ces petites restrictions pour fermer les restaurants et les bars plus tôt le soir et demander aux gens de faire un petit peu plus de télétravail. Bon, on verra où on en sera. Les organisateurs disent qu'ils aimeraient bien avoir du public. Il faut se dire que cet état d'urgence, il n'est pas dans la totalité des préfectures du Japon. Et si les Jeux sont compacts, hein, l'essentiel se passe à Tokyo et autour. Il y a quelques épreuves, quelques matchs éliminatoires de football, de softball, qui ont lieu loin, dans des préfectures qui sont moins touchées par l'épidémie. Et donc, en théorie, dans les prochains jours, il y aura peut-être du public dans ces villes-là, même si la plupart des préfectures ont suivi le code de Tokyo, ont suivi ce qu'a fait Tokyo. Mais il n'est pas impossible que quelques personnes, quelques centaines de personnes se retrouvent vraiment dans les stades pour voir des épreuves un petit peu annexe ou les débuts des éliminatoires de certains sports.
Yann, on peut dire que peu de choses auront été épargnées aux organisateurs de ces JO de Tokyo. Ils ont souvent été sous le feu des critiques depuis quelques mois.
Il y a un effet zoom hein, des médias étrangers, notamment une ou deux agences de presse qui ont été assez rapidement anti-jeux pour des raisons, je ne sais pas, assez irrationnelles et qui donc ont eu tendance à avoir une couverture assez anxiogène. Bon, il n'y a pas d'engouement encore une fois. La population voit ça avec assez indifférence. Vous savez, le bureau des échos ici est hébergé dans une grande entreprise, LVMH pour ne pas les citer. Donc, je suis avec dans une tour où il y a 5000 employés. Tous les gens autour de moi, donc qui sont que des Japonais, s'en fichent un peu. Personne n'a acheté de billets, ils étaient très chers. Donc, personne n'a suivi le débat sur les remboursements, sur spectateurs ou pas, ça ne les concerne pas. Ils vont regarder les Jeux Olympiques à la télé, comme toujours. Ils seront excités de voir les grands champions japonais en judo, en badminton ou en natation. Donc, on est plutôt dans l'indifférence que dans la colère, si vous voulez. C'est pas ça, mais c'est vrai qu'il y a eu un enchevêtrement. Il y a eu des scandales d'abord sur des soupçons de corruption sur la victoire de la candidature de Tokyo. Ensuite, il y a eu une communication catastrophique de l'équipe en place, de l'ancien président du comité d'organisation qui a enchaîné les commentaires déplacés. Récemment, cette semaine, on a eu hier la démission de l'un des compositeurs en charge de la cérémonie d'ouverture de ce vendredi soir. Il y a quelques minutes, hein, c'est le directeur créatif de la cérémonie d'ouverture qui a été aussi viré parce que des médias ont découvert qu'il avait fait en 1998, donc il y a 23 ans, dans un petit sketch amateur à la télé, quand il était comédien, une blague de très mauvais goût, très déplacée sur l'Holocauste, une blague de 9 secondes. Et donc aujourd'hui, puisqu'il y a tel feu de critique qui s'abat sur les organisateurs, qu'ils ne tiennent plus rien. Et donc, ils ont viré en quelques minutes ce matin le créateur directeur, à quelques heures seulement, de la grande cérémonie sur laquelle il travaille depuis des années.
C'est la quatrième fois que le Japon accueille les JO d'été et d'hiver. La dernière fois, c'était à Nagano en 1998.
Eh bien, oui, ici à Nagano, comme vous le voyez sur ces images, c'est oula, oui, magnifique ce que fait là le Bulgare d'origine finlando-alémanique, catégorie moins de 3 bras.
En 2016 à Rio, la délégation nippone avait rapporté 41 médailles, dont 12 d'or, ce qui classait le pays au sixième rang mondial, juste devant la France. Pour autant, Yann, vous le disiez, on a un peu l'impression que le pays a du mal à se passionner pour cette compétition. Pour quelle raison ?
Encore une fois, je pense qu'ils en ont marre de toute cette polémique. Il y avait une vraie montée, un vrai engouement. L'année dernière, vous savez, on avait associé les écoles, il y avait des programmes, il y avait les enfants allaient pouvoir dans les villages, il y avait les volontaires qui avaient été recrutés, on leur avait donné des cours d'anglais. Donc, il y avait un momentum, une dynamique qui s'était créée de la fin 2019 au début 2020. Et puis ensuite, il y a eu cette annonce choc d'un report avec des doutes sur le maintien. Et donc, depuis un an, toute cette organisation vit un peu de manière fantôme, un peu en flottement, avec jusqu'à la dernière minute un débat public, pas public, annulation ou pas. Et donc, la population a du mal à se passionner. Alors, on a annulé, du fait de l'état d'urgence, tout ce qu'on appelle les fan parks. Vous savez, c'est des zones qui étaient créées un peu partout dans la ville, avec des écrans géants, des stands de bière, de la nourriture, des yatai. Vous savez, ce qu'on appelle des yatai ici, ce sont des petits estaminets, des petits stands où on mange de la nourriture traditionnelle. Donc, il n'y aura pas du tout ce côté festif. Vous pouvez vous promener aujourd'hui dans Tokyo sans savoir que le plus grand événement sportif de l'année va se passer demain, dans les 3 semaines qui viennent. Donc, c'est très étrange. Il y a toujours la décoration accrochée aux lampadaires, des petits fanions, et on appelle ça toujours Tokyo 2020. Donc, il y a un petit peu ce climat. Et il y a les quartiers du village olympique ou les quartiers des centres de presse qui sont complètement fermés. Il y a un no man's land qui a été créé même autour du grand stade olympique de Kengokuma, qui est au plein centre-ville, à peu près 15 minutes en vélo d'où on se trouve ici. Et donc, ils ont un dispositif sécuritaire gigantesque qui n'a pas du tout été revu à la baisse alors que personne ne vient et que personne n'ira dans les stades. Mais bon, c'était prévu depuis des années, donc on applique les règles. Donc, il y a une ambiance un peu étrange où les gens vaquent à leurs occupations, travaillent, font normalement. Nous sommes fériés jusqu'à la fin de la semaine. C'est des jours traditionnels fériés au Japon. Et donc, il y a un côté ville fantôme. Il ne se passe rien. Vous n'avez vraiment aucune idée de ce qui va se jouer ici dans les prochains jours. Mais ça sera sûrement formidable à la télé. Et c'est sur ça que comptent les organisateurs, en se disant, où que vous soyez dans le monde ou loin de Tokyo, vous regarderez des jeux formidables, bien réalisés, avec des athlètes qui vont se donner à fond. Ça ne changera pas grand-chose pour 99% des gens qui vont vivre ces jeux et qui d'habitude les vivent à la télé. Ça sera la même chose cette fois.
La cérémonie d'ouverture, c'est ce vendredi. Et on a appris qu'aucun responsable de Toyota, qui est l'un des principaux sponsors des Jeux Olympiques de Tokyo, n'assistera à cette cérémonie d'ouverture. C'est le signe d'un certain malaise de la part des sponsors ?
Il y a un problème au niveau des sponsors. Donc, il n'y a pas que Akio Toyoda, le PDG de Toyota, qui ne sera pas là. Il n'y a pas le patron de NEC, le grand groupe informatique et technologique. Il n'y a pas le patron de la Japan Post. Il n'y aura pas le patron de Nissin, le géant des nouilles. Ils ont globalement tous annulé parce qu'ils se sont dit qu'il y avait une forme d'indécence à être filmé ou pris en photo dans les salons VIP tout en haut de ce très beau stade, alors que tout est vide en dessous. Donc, ils ont préféré annuler tous les événements pour eux, mais aussi pour leurs clients, pour leurs partenaires. Vous savez, ce qu'on appelle l'hospitality pour ces géants VIP. Donc, ils ont annulé. Il y a aussi un repli en termes de couverture marketing. C'est-à-dire qu'il y a eu, du fait de toutes ces polémiques, certaines entreprises se sont dit « on va peut-être abîmer notre image de marque, notre réputation, si on en fait trop autour des JO ». Alors, Toyota a décidé de replier sa campagne de pub télé sur les télés japonaises avec une communication qui était liée aux JO. La plupart des groupes ont enlevé les stands qui avaient été prévus dans le village olympique ou dans des zones près des parcs où il y aurait eu des fans, mais ils ne seront pas là. Donc, on se replie sur de la communication low profile, profil bas, un peu plus discrète. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème. Ces partenaires japonais, c'est 68 entreprises. Vous savez, on est dans un système pyramidal avec en haut, vous avez des, ce qu'on appelle les global partners. C'est 14 entreprises qui, elles, payent le Comité international olympique pour être partenaires et sponsors sur plusieurs Olympiades, hein, sur presque parfois 10 ans, donc Olympiades d'été, Olympiades d'hiver. Et ensuite, le Comité international national, lui, a recruté ses propres sponsors locaux avec des gold sponsors. Ce sont ceux qui ont payé le plus. Par exemple, la bière Asahi a payé 165 millions de dollars pour être associée aux Jeux olympiques, pour se servir de la communication, des étiquettes, des anneaux, ainsi de suite. Et plus vous descendez, moins vous payez et moins vous avez accès à ce partenariat. Mais 68 entreprises avaient dit oui. Au total, le comité japonais avait reçu 3 milliards de dollars. Bon, le retour d'investissement pour ces petites entreprises va pas être, ces partenaires locaux va être très faible. Alors, beaucoup sont agacés, mais il n'y a pas de plan B. C'est comme ça, c'est perdu. Et ça pose un problème, ça pose un débat pour les prochaines Olympiades. S'il n'y a pas de doute chez les global partners, les Visa, les Coca-Cola, les Samsung, Toyota ou Panasonic, qui eux sont engagés sur le temps long et qui sont dans des communications globales à chaque jeu, il va y avoir des questionnements pour les petites entreprises locales qui espéraient briller sur l'Olympiade dans leur ville. Est-ce que Paris, après ce fiasco quelque départ du marketing à Tokyo lié au Covid, va arriver à convaincre des entreprises françaises de mettre autant que ce qu'ont fait les autres villes précédentes. Il y a de gros doutes là-dessus.
Les premières compétitions de softball et de football féminin ont déjà démarré, dans une ambiance indescriptible. Lors de cette victoire surprise de la Suède contre les tenantes du titre américaines, invaincues depuis 44 matchs, en attendant la cérémonie d'ouverture de vendredi, le moment tant attendu par le CIO et les organisateurs japonais, dont on peut légitimement se demander s'ils n'ont pas été tentés de repousser une nouvelle fois l'événement.
Ce report, au fond, c'est une décision à la fois douloureuse et coûteuse.
Christophe Palir, c'est journaliste aux Échos. Il est notamment chargé de suivre l'actualité autour du sport.
Douloureuse parce que, l'air de rien, c'est finalement un précédent dans l'histoire des Jeux Olympiques contemporains depuis leur première édition 1896. Alors certes, on a eu 3 annulations dans cette histoire contemporaine olympique, mais à chaque fois, c'était en temps de guerre. 1916, 1940 et 1944. Donc ce report pour cause de pandémie, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et puis il y a un autre sujet, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais ce calendrier olympique, au fond, si je puis dire, c'est comme de l'horlogerie suisse. Parce que organiser les Jeux d'été en particulier, c'est complexe. Parce qu'il y a une trentaine de compétitions, voire un peu plus, d'ailleurs, en simultané. C'est quand même colossal à organiser. Ça se tient tous les 4 ans. Donc, tout ça fait que, y a quand même un rythme qui est soutenu, sachant que c'est complexe. Et donc, le moindre grain de sable, au fond, parasite un peu l'ensemble de la programmation. On parle de programmation quand même pour ces Jeux. Donc, c'est quand même pas simple. C'est complexe. Les enjeux sont énormes. Et donc, le report l'an dernier, il s'imposait parce qu'on pouvait pas faire autrement. Mais récidiver, c'était quand même complexe parce que derrière s'enchaînaient Paris 2024, Los Angeles, et puis il y a aussi des Jeux d'hiver par ailleurs l'an prochain en Chine. Donc tout ça fait que le calendrier est quand même loin d'être simple à gérer. Et puis il y a aussi un sujet coût, c'est que quand même on parle d'un surcoût de l'ordre de 2,7 milliards de dollars en incluant les mesures sanitaires ajoutées avec cette crise. C'est quand même pas rien. Donc tout ça fait que franchement ça aurait été hallucinant d'imaginer qu'on recommence à reporter les Jeux.
Oui, les JO, vous le disiez, hein, les enjeux sont importants, c'est l'une des compétitions majeures dans le monde, la plus suivie par les téléspectateurs. C'est aussi un immense business qui brasse beaucoup d'argent.
Oui, forcément Pierrick, parce que c'est déjà évidemment le plus gros événement sportif au monde, on en parlait à l'instant, il y a quand même une trentaine de sports et un peu plus de disciplines qui sont organisées. Ce sont donc au fond 30 à 40 championnats du monde en même temps, donc c'est quand même fastidieux. Et évidemment, vous avez parlé de la dimension médiatique, c'est plus de 4 milliards de téléspectateurs. Donc derrière, il y a des enjeux, c'est beaucoup d'infrastructures. À chaque fois, il y en a pour plusieurs milliards d'euros. Là, pour Tokyo, la note finale est de l'ordre de 15 milliards. C'est le double de ce qui est prévu. Donc évidemment, c'est colossal. Et on a même fait beaucoup plus, d'ailleurs, à Pékin et Sochi, hein, les fameux Jeux d'hiver de Poutine, puisque là, on tangentait les 40 milliards. Donc c'est colossal. Et puis, évidemment, il y a toute cette dimension sponsoring, merchandising qui est colossale à Tokyo où on atteint des niveaux sans précédent en termes de sponsoring. On est sur plus de 3 milliards de dollars engagés par une soixantaine de marques locales. Donc, évidemment, il y a des enjeux à tous les niveaux pour tous ces partenaires du comité d'organisation. Et puis, évidemment, tout comme il y en a pour les partenaires du comité international olympique. Donc c'est un événement à multiples dimensions économiques et sociétales, quelque part.
On a parlé avec Yann Rousseau, justement, de ce malaise, des sponsors qui se retrouvent dans une situation assez complexe avec une population japonaise qui n'a pas forcément envie de voir ces JO se tenir, qui s'inquiète aussi des conséquences sur la pandémie. On l'a dit, cette année, ce sera particulier avec une compétition déjà repoussée d'un an, des compétitions qui seront sans public. Est-ce qu'on a une idée du manque à gagner, Christophe ?
Ce qu'on peut déjà dire de façon certaine, c'est que les recettes de billetterie du comité d'organisation, elles sont de facto ramenées à zéro. Il y en avait quand même pour grosso modo 800 millions de dollars dans le budget du comité d'organisation. Donc évidemment, ça, c'est une perte sèche. Après, la difficulté dans ce genre d'exercice, c'est que il y a des infrastructures qui sont pérennes, qui accompagnent les jeux. Donc, c'est pas vraiment perdant. Et puis, ce qu'on oublie aussi, alors évidemment, ça renvoie aussi au dérapage, c'est que le comité d'organisation de concert avec le CIO ont dû mettre en place un programme d'optimisation pour faire des économies. On parle de 180 millions de dollars d'économies accompagnant le report. Sachant qu'il y avait déjà eu avant diverses et colossales d'ailleurs, puisqu'il y en avait pour plusieurs milliards d'économies qui étaient déjà engagées pour contenir le dérapage financier de ces Jeux de Tokyo. Je pense qu'on aura une vision très claire a posteriori. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit pour les Jeux de Londres, hein, puisque les Jeux de Londres, au fond, ils ont été après coup réestimés aux alentours de 12-13 milliards par un rapport parlementaire. Et en fait, c'était un peu plus ce qui était dit à l'époque, sachant qu'il y avait déjà eu un dérapage pour ces Jeux britanniques. Donc, parler de manque à gagner, oui. Dérapage supplémentaire, probablement.
Le budget des JO de Tokyo est déjà passé de près de 11 milliards d'euros à plus de 15 milliards. Le report à lui seul aurait coûté, selon les médias japonais, plus d'un milliard et demi d'euros. Christophe, est-ce qu'on sait combien ces JO pourraient coûter au final ?
Je me dis, mais je reste prudent, hein, que le CIO, depuis un certain nombre d'années, est dans une problématique de jeu raisonnable, développement responsable, héritage. C'est toute la problématique de ces Jeux de Paris 2024 qui seront comme un nouveau modèle pour le CIO. Donc tout ça fait que depuis quelques années, le CIO est quand même contraint, au fond, c'est une question d'image, puisqu'il y a une remise en cause de toute cette gabégie, hein, pour reprendre l'expression de certaines personnes, qui est quelque part fondée, hein, compte tenu de la réalité des faits. Donc le CIO est quand même très soucieux de tenir les engagements, les budgets. Alors certes, ça a dérapé à Tokyo, mais je pense que, à moins que les Japonais n'aient pas été totalement clairs de leur côté, mais enfin, il y a quand même ce souci de contenir les dérapages. Donc, je suis pas sûr que ça soit quand même aussi conséquent que ça a pu l'être dans le passé, comme on a pu voir sur les Jeux de Sochi dont on parlait tout à l'heure, ou même de Pékin, qui avait été quand même considérable en termes de dépenses.
Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction. Pas de palais. Pas de palais. Pas de palais.
Et on pourrait poursuivre. Pas de public. Pas de public. Pas de public. Pas de billets. Mais des billets ont bien été vendus, notamment à des visiteurs étrangers. Qu'est-ce qui va se passer ?
Ce qui se passe, c'est que c'est un peu la conséquence d'eux, c'est qu'il faut rembourser. Hein. Donc, tout à l'heure, on parlait de ces recettes de l'ordre de 800 millions pour la billetterie. Évidemment, tout n'a pas été vendu à ce moment-là, mais grosso modo, il y a quand même 800 millions qui disparaissent, et dans ces 800 millions, il y a une partie de remboursement.
Merci Christophe Palir, ce spécialiste du business du sport aux Échos, et merci Yann Rousseau, correspondant des Échos à Tokyo. Avant de se quitter, un petit conseil lecture avec cet ouvrage passionnant de Anthony Teixeira, un livre publié chez Sœur d'édition intitulé « Manga et sport, une passion japonaise » sur le sport dans la société japonaise vu à travers le prisme du manga, baseball, boxe anglaise, mais aussi tennis de table et bien sûr football. Avec le succès planétaire de Captain Tsubasa, 82 millions d'albums vendus et un impact fort sur la culture sportive au Japon, Captain Tsubasa qui donnera l'animé Olive et Tom et cet épisode qui mettait aux prises le Japon et le Brésil en finale des Jeux Olympiques. On est à trois partout. Nagatomo s'échappe le long de la touche, il centre. Tsubasa et Misaki s'élancent, retournés acrobatiques, les pieds des deux joueurs frappent ensemble le ballon.
Yatta!
La story des échos s'est terminée pour aujourd'hui en vous souhaitant de bons JO. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des échos est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.
Olive et Tom, ils sont toujours en forme, Tom, oh.